أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلينا معهم بمنك وكرمك وإحسانك ورحمتك وفضلك، يا من لك الدنيا والآخرة وإليك المعاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقائدين وراقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم اجعلنا في أمانك وضمانك وإحسانك ورحمتك وفضلك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك توكلنا، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربنا على صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شر فرير سورة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالله سبحانه وتعالى لتره اكزوس نوتر جن اي نو بريير. En effet, aujourd'hui, nous nous retrouvons autour d'un thème d'actualité qui, comme l'a si bien dit le frère qui a fait l'introduction, constitue aujourd'hui une préoccupation internationale. Le sujet, vous l'avez déjà entendu, c'est la bonne gouvernance au regard de l'islam. On ne peut pas dire la bonne gouvernance en islam, puisque l'islam étant la révélation de Dieu, étant la religion de Dieu, Dieu étant la source de la perfection et de la justice, on ne peut pas dire qu'en islam, il y a autre chose que la bonne gouvernance. Mais nous disons la bonne gouvernance au regard de l'islam. Comment est-ce que l'islam traduit dans les faits, dans la réalité, dans le concret, la bonne gouvernance pour sa communauté, la communauté des croyants et des croyantes? Cette communauté dont Dieu nous a tant parlé dans le Coran, que Dieu a appelé la meilleure des communautés. Lorsque Dieu a dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah » Vous êtes la meilleure communauté qui soit créée parmi les descendants d'Adam. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Dieu. Quelle est donc la manière, les voies et moyens par lesquels l'islam traduit dans les faits, dans le concret, les règles de la bonne gouvernance? Eh bien, nous allons tout d'abord procéder à un éclairage conceptuel, donc définir les concepts qui composent, n'est-ce pas, le titre, la bonne gouvernance, l'islam, etc. Eh bien, pour ce qui est du concept de gouvernance, nous savons que c'est un mot qui a été introduit dans la langue française il n'y a pas très longtemps. Il est issu d'un mot qui existe dans les langues anglo-saxonnes, notamment en anglais, « the governance », n'est-ce pas, cette fois-ci avec un orthographe quelque peu différent. C'est le « G-O-V-E-R-N-A-N-C-E »,« governance ». Donc, c'est les anglo-saxons, précisément l'anglais, qui a d'abord utilisé ce concept dans le domaine du gouvernement. Donc ça veut dire en anglais gouvernement plus contrôle. Je disais que qu'en français, le mot n'existait pas auparavant. Et selon les informations que j'ai, c'est le président Senghor, qui, comme vous le savez, est un académicien, donc membre de l'Académie française, l'Académie de la langue française précisément. C'est lui qui a eu d'abord à utiliser ce mot. Et ensuite, le mot fait partie, le mot gouvernance, fait partie des derniers mots qui ont été introduits, en tout cas sous ce sens, le sens de gouvernement et de contrôle dans la langue française. Alors, pendant ces dernières années, au vu de l'échec, n'est-ce pas, de la méthode de gestion qui est appliquée par les différents gouvernements, en tout cas depuis ces derniers temps, les temps modernes, des réflexions poussées ont été faites sur les différentes méthodes de gouvernement permettant d'assurer, si vous voulez, une forme de gouvernement, n'est-ce pas, qui peut répondre aux besoins ou à l'attente, n'est-ce pas, des administrés. C'est-à-dire un gouvernement qui peut se caractériser notamment par la responsabilité, par la transparence, par, n'est-ce pas, l'application des lois, etc. C'est ainsi que les différents pays occidentaux qui sont avancés dans le domaine de la recherche en matière des sciences administratives, des sciences politiques et autres, aujourd'hui, on a poussé donc la recherche jusqu'à trouver finalement que l'éthique, pour eux donc, que l'éthique a un rôle à jouer dans l'obtention d'une forme de gouvernement qui réponde un tant soit peu à ces critères de responsabilité, de transparence et d'honnêteté, si vous voulez, dans l'application des lois. Alors évidemment, il y a un problème à ce niveau. C'est pourquoi évidemment nous avons aujourd'hui dans les sciences administratives modernes, nous avons beaucoup de théories qui ont été, n'est-ce pas, écrites dans le domaine de la gestion administrative moderne, la gestion de la cité, n'est-ce pas? Et on a introduit donc cette notion de l'éthique. Mais il y a donc un problème, comme je disais, qui se pose à ce niveau. C'est que on dit que l'éthique a un rôle à jouer pour atteindre ces objectifs-là, mais on n'arrive pas à définir l'éthique dont il est question. Bon, vous savez que l'éthique, dans sa définition, c'est l'étude des fondements de la morale. Ça, c'est une des définitions de l'éthique, n'est-ce pas, qui nous est proposée dans sa conception occidentale. Nous avons une autre définition, c'est, si vous voulez, l'application des règles de bonne conduite dans un domaine donné. Notamment, par exemple, dans le cas qui nous occupe ici, le domaine de la gestion administrative, de la gestion de la cité. Le problème, donc, que nous voyons ici, dans ces deux définitions de l'éthique que nous venons de voir, il y a deux mots ou deux expressions. Donc, dans chacune de ces deux définitions, il y a une expression pour laquelle il faudrait trouver une autre définition. Par exemple, dans la première définition, où on nous dit que l'éthique est l'étude des fondements de la morale, alors la grande question qui se pose au niveau de cette définition, c'est de savoir où se trouvent ces fondements de la morale. De quelle morale s'agit-il? Où est-ce qu'il faut aller puiser cette morale? Dans quel fondement? Est-ce dans les coutumes? Est-ce dans la culture populaire? Est-ce dans l'entendement des gens? C'est là que se trouve le grand point d'interrogation. Dans la deuxième définition, on nous dit que c'est l'ensemble des règles de bonne conduite dans un domaine donné. Là aussi, nous avons le mot « bonne », « bonne conduite », la notion de « bonne ». Où est-ce que, quels sont les repères, quel est l'étalon de mesure que nous allons utiliser pour savoir que telle règle est bonne ou n'est pas bonne? Alors, au niveau donc du droit positif ou bien de l'approche positive de ces expressions-là, il y a un grand problème qui se pose dans la mesure où le droit positif se refuse donc à se référer, par exemple, à la religion, parce que le droit positif ne croit pas à la religion ou au fondement de la religion. C'est là que débute la grande différence d'approche entre le droit positif et, par exemple, le système de l'islam. Le système de l'islam, donc, qui est la deuxième partie, n'est-ce pas, ou le deuxième concept du titre de notre exposé lorsque nous disons la bonne gouvernance au regard de l'islam. Ce qui va nous amener donc à parler précisément de cet islam-là. Pourquoi, lorsque l'islam intervient, nous obtenons véritablement ce qu'on appelle la bonne gouvernance, et que dans les autres cas, il est difficile, sinon il est impossible d'accéder à cette bonne gouvernance dont on parle. Parce que la bonne gouvernance vise, comme je l'ai dit tout à l'heure, selon les définitions qui nous ont été proposées, c'est donc la gestion, c'est le système de gestion des affaires d'intérêt général d'un pays, n'est-ce pas, dont les caractéristiques principales, c'est-à-dire les caractéristiques principales de ce système de gestion, c'est la responsabilité, c'est la transparence, c'est la soumission de l'État au droit et à l'honnêteté. Ça, c'est une des définitions qui nous a été proposée. Alors, le problème qui se pose là, comment nous pourrons amener les acteurs, n'est-ce pas, de ce système de gestion à faire preuve de responsabilité, de transparence, n'est-ce pas, et comment ils peuvent soumettre l'État au droit et à l'honnêteté. Alors, c'est tout le problème réside à ce niveau. Cela, nous le disons parce que un être humain, par définition, doit être motivé si nous voulons, n'est-ce pas, qu'il réalise ou qu'il se décide à faire quelque chose de précis. Il faut qu'il y ait une motivation donnée. Alors, l'islam nous donne donc cette motivation, tandis que le droit positif, n'est-ce pas, qui s'est bloqué lui-même, puisqu'il s'est refusé à se référer à tout ce qui se trouve au-delà du rationnel, n'est-ce pas, donc pour entrer dans la religion et autres, eh bien, il est impossible pour le droit positif donc de dépasser ce stade pour donner à l'être humain une motivation dans le sens de la réalisation des préoccupations que constituent la responsabilité, la transparence, l'honnêteté, etc. C'est pourquoi donc, en islam, nous avons donc cet équilibre et cette harmonie. Et c'est la raison pour laquelle, très aisément, l'islam arrive à réaliser, comme nous allons le voir, incha'Allah, cette bonne gouvernance sous une administration islamique. Mais on peut déjà dire que sans une religion à l'image de l'islam, sans une religion structurée telle que l'islam l'est, on ne peut pas du tout, il ne peut pas avoir d'éthique, car, comme je l'ai déjà dit, l'être humain doit forcément être motivé dans ses actions pour atteindre l'objectif que nous lui fixons. Or, aujourd'hui, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que nous ne pouvons trouver dans le monde une religion à l'image de l'islam. Et nous allons le voir tout à l'heure lorsque nous allons passer en revue les différentes composantes, les différents éléments constitutifs du système de l'islam. Nous avons d'abord le livre sacré, le livre révélé de l'islam, qui est un livre dont vous ne trouverez aucun autre pareil dans le monde, dans les autres religions dites révélées. C'est-à-dire un livre révélé qui garde toute son authenticité divine, qui se trouve dans la langue originale, la langue dans laquelle ce livre a été révélé. Aucune autre religion n'a un livre de référence de ce genre. Ça, c'est une première caractéristique de l'islam. Deuxièmement, l'existence des règles juridiques. Dans les autres religions, par exemple, au niveau du christianisme, ou bien des autres religions asiatiques, comme le taoïsme, le shintoïsme et autres, nous n'avons pas de règles juridiques établies pour gérer la communauté. Chez les juifs, par exemple, au niveau du judaïsme, nous avons quelques règles, mais qui ne suffisent pas, qui ne sont pas nombreuses. En islam, nous en avons à profusion. Il n'y a pas un aspect de la vie de l'être humain qui n'est pas codifié par une règle juridique donnée de l'islam, par la législation de l'islam. Nous avons une autre caractéristique, une troisième caractéristique du système de l'islam, c'est le dogme de l'islam, al-aqida, n'est-ce pas, qui répond, que nous pouvons nous expliquer selon, par rapport auquel nous pouvons nous donner une explication rationnelle. Si nous prenons le dogme de l'islam, nous avons eu plusieurs fois l'occasion d'en parler. Vous prenez le Coran, qui nous parle par exemple de Dieu, qui nous parle des anges, qui nous parle de l'au-delà, qui nous parle du paradis, qui nous parle de l'enfer, qui nous parle de tout ce que nous n'avons jamais vu, qui relève donc de l'irrationnel. Le Coran nous invite à utiliser le rationnel, à utiliser notre raison pour nous convaincre de la véracité de cet irrationnel, c'est-à-dire de l'existence de Dieu. Par exemple, par rapport à l'existence de Dieu, Dieu que nous ne voyons pas physiquement, le Coran nous demande d'utiliser notre raison pour scruter, par exemple, notre propre création, notre propre organisme, notre propre physique, notre propre être, pour savoir que, par rapport à ce que nous représentons, il y a certainement une divinité parfaite, omnisciente, puissante, n'est-ce pas, qui nous a créés, qui nous a donné l'existence. N'est-ce pas? Dans la main de qui se trouve l'existence et qui nous a donné justement cette existence. Le Coran nous demande d'abord de scruter notre propre être. « Wa fi anfusikum afala taqilun » Observez, scrutez votre propre être sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan sentimental, pour voir que véritablement il y a derrière cela un être puissant, omniscient, sage, qui nous a donné cette existence. Ensuite, Dieu nous demande à travers le Coran de scruter autour de nous et de découvrir un certain nombre de lois que nous pouvons découvrir avec notre raison. Dieu nous demande donc d'utiliser nos facultés rationnelles pour scruter ces lois cosmiques qui sont autour de nous, pour nous rendre compte de son existence. Et effectivement, dès que nous le faisons, nous nous rendons compte effectivement qu'il existe un Dieu. Il n'y a pas un être humain doué de bon sens qui, lorsqu'il regarde autour de lui, lorsqu'il scrute l'existence, l'environnement qui se trouve autour de lui, lorsqu'il analyse les lois cosmiques dans lesquelles il baigne, il n'y a pas un être humain donc doué de bon sens qui ne se rendra pas compte logiquement que véritablement il se trouve dans un système, il se trouve dans un cadre qui a été mis en place par un être supérieur, intelligent, omniscient, omnipotent. Donc, il y a ici, si vous voulez, le dogme de l'islam qui nous interpelle, qui interpelle notre raison et qui nous demande d'utiliser donc la raison pour nous rendre compte de l'évidence du caractère, de la véracité du caractère divin de cette foi que Dieu nous a donnée. Tandis que, si vous prenez les autres religions, les autres systèmes, vous verrez qu'il y a, des problèmes au niveau du dogme. Par exemple, le problème de la Trinité, c'est un problème extrêmement grave qui se pose aux adeptes, par exemple, de la chrétienté. Et j'en passe. Ça, c'est donc le dogme. Nous avons, après le dogme, un quatrième élément du système de l'islam, c'est l'éthique de l'islam. L'éthique de l'islam qui est tout à fait différente, donc, de l'éthique que nous propose le droit positif, par exemple, l'approche positive de cette science. L'approche positive nous dit simplement que l'éthique, c'est l'étude des fondements de la morale, sans nous préciser l'origine, les fondements dont il est question, les fondements de cette morale. On nous dit par exemple que c'est l'ensemble des règles de bonne conduite. Comment peut-on savoir que telle conduite est bonne ou mauvaise? Parce que chez eux, tout est relatif. Alors qu'en islam, l'éthique de l'islam est fondée, est basée sur des fondements absolus. C'est ça la grande différence. On ne peut pas dire que telle chose est bonne ici, dans tel pays, est mauvaise dans tel autre pays, ou bien est mauvaise à telle époque, est bonne à telle autre époque. N'est-ce pas? Sauf dans des cas bien exceptionnels qui sont codifiés par le système juridique de l'islam. Alors, par exemple, si nous prenons le système positif, nous connaissons par exemple, nous connaissons le problème de l'interdiction de l'alcool, de la consommation, de la vente de l'alcool, par exemple, aux États-Unis au début du siècle. C'était considéré comme un crime, comme une infraction, que de fabriquer de l'alcool, de consommer l'alcool, de vendre l'alcool, au début du siècle. Lorsqu'on s'était rendu compte que, avec tous les moyens qui ont été utilisés pour interdire, n'est-ce pas, pour frapper cette infraction, que la loi ne pouvait pas, que matériellement, il était impossible donc d'interdire aux gens de consommer l'alcool ou de vendre l'alcool, eh bien, on a levé l'interdiction. Et la consommation de l'alcool, donc, qui était considérée comme mauvaise, est devenue bonne, parce que la loi a connu une mutation, un changement. En islam, ce n'est pas possible. Quelque chose qui est mauvais reste toujours mauvais. Pourquoi? Parce que les fondements sont immuables, ne changent pas. C'est Dieu qui légifère, ce n'est pas l'homme qui légifère. Donc le fondement, n'est-ce pas, de la loi, de la morale en islam, c'est Dieu. Tandis que le fondement de la morale, dans le système positif, c'est la société, c'est l'homme. L'homme peut décider aujourd'hui que telle chose est bonne et demain décider qu'elle est mauvaise. Ou bien qu'elle est mauvaise aujourd'hui, demain on décide qu'elle est bonne. Donc, et finalement, nous le savons aujourd'hui, la législation, le système juridique positif, de plus en plus, a tendance à interdire d'interdire, comme on le dit. De plus en plus, on interdit d'interdire. On essaie de laisser l'être humain, et nous savons aujourd'hui même, le problème que nous avons connu ces derniers mois, la convention par exemple qui concerne le problème de la femme ou le problème de l'enfant. On nous dit qu'il ne faut plus éduquer, laisser l'enfant faire ce qu'il veut, c'est sa liberté. Et aujourd'hui, nous entendons parler de la création d'un parlement des enfants. Des enfants qui ont un parlement qui décide, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Voyez-vous? Donc c'est ça la grande différence entre le système de l'islam qui a un fondement absolu qui est Dieu, n'est-ce pas, Dieu qui appréhende tout le cosmos, qui a créé l'être humain, selon le credo, le système, la profession de foi de l'islam, qui sait ce qui est caché et ce qui est visible, ce qui est bon et ce qui est mauvais, qui connaît l'intérêt de l'homme pour l'avoir créé. C'est Dieu donc qui légifère, qui dit à l'homme, voilà les frontières que je trace, ne les transgresse pas. Si tu les transgresses, non seulement tu désobéis à moi qui t'a créé, mais également tu vas à l'encontre de ton propre intérêt. Par exemple, lorsque Dieu dit de ne pas tuer, Dieu interdit dans le Coran de tuer. Lorsqu'on tue de manière injuste, je dis bien injuste parce qu'on peut tuer justement. La loi du talion existe en islam. Quelqu'un qui a tué doit être tué également pour rendre justice, parce que la justice existe en islam et elle est absolue, elle vient de Dieu. Dieu nous interdit de tuer une âme injustement. Lorsque on transgresse cet interdit de Dieu, non seulement et on désobéit à Dieu et on s'expose donc à la sanction de Dieu, dans l'ici-bas comme dans l'au-delà, mais également on commet un acte qui va à l'encontre de l'intérêt de l'être humain. Parce qu'en tuant, n'est-ce pas, on crée le chaos, le désordre sur la terre, et cela, ce n'est pas de l'intérêt de l'individu que dans la société prévale le chaos. Alors, donc, l'éthique de l'islam a cette différence avec l'éthique qui est proposée par le droit positif, c'est que l'éthique de l'islam a des fondements qui sont absolus, donc cette éthique reste absolue. Ce n'est pas relatif. On ne dit pas que telle chose est aujourd'hui bonne pour être mauvaise demain. Et ça, c'est extrêmement important. Nous avons également un autre aspect ou un autre élément du système de l'islam qui sous-tend l'éthique et tous les autres aspects, parce que tout ce qu'on est en train d'énumérer ici, qui constitue les fondements de l'islam, sont en fait interdépendants, s'enchevêtrent en réalité. Nous avons ensuite le culte. Le culte, c'est-à-dire l'adoration. Comment, quelles sont les pratiques, quels sont les comportements et les attitudes à observer dans le cadre de l'adoration, c'est-à-dire de l'adoration de Dieu, l'unique sans associé, parce qu'en islam, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Eh bien, l'adoration lui-même participe de cette éthique. Par exemple, si nous prenons la prière, Dieu dit dans le Coran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Très certainement, la prière, lorsqu'elle est bien faite par le serviteur de Dieu, lui interdit l'insolite et la turpitude, lui interdit de tomber dans la turpitude, donc dans le péché. N'est-ce pas? Or, tomber dans le péché, c'est transgresser, c'est violer l'éthique, c'est violer la morale. Ainsi donc, nous avons ici le culte, qui est un autre élément qui participe de cette observance de l'éthique de l'islam.